Histoire d'archives sur Fréquence Mistral, antenne de Digne-les-Bains. Bonjour Laure Franek, bonjour Laure.
Bonjour à tous.
Alors Laure, vous êtes, c'est la dernière émission de l'année.
Et oui.
Vous allez parler un petit peu de votre métier essentiellement aujourd'hui.
Tout à fait, tout à fait. L'idée... Voilà. Vous parlez du... Parlez... Attendez, parce qu'il y a un petit problème de son, je ne vous entends pas du tout.
Bon, voilà.
Est-ce qu'on va y arriver? Oui, c'est mieux. Enfin, ça, c'est, voilà. Pardon aux auditeurs, voilà, ça y est, impeccable. Oui, parler du métier des archives, parce que c'est vrai qu'on parle souvent d'actualité, de notre programmation culturelle, des histoires que l'on peut découvrir en manipulant les archives. Et puis, au cours de notre quotidien d'archiviste, on se rend compte que souvent, les gens ont du mal, finalement, à comprendre la réalité de notre travail. Déjà, qu'est-ce qu'on conserve aux archives départementales, hein? C'est un grand bâtiment qui est assez imposant au niveau architectural dans la ville de Digne. Et quand on fait des visites, notamment pour les journées du patrimoine, et que les gens découvrent les coulisses, ils sont souvent très très étonnés, puisque en réalité, le public n'a accès qu'à une toute petite partie des espaces professionnels. Ils ont accès évidemment à l'accueil, au hall d'exposition et à ce qu'on appelle la salle de lecture, qui est la salle de consultation des archives.
Et il y a une salle de conférence aussi.
Et il y a une salle de conférence où ont lieu la plupart de nos conférences et de nos lectures d'archives, tout à fait. Et de nos ateliers aussi, hein, parce qu'on fait venir beaucoup de scolaires, et que d'ailleurs, on a l'intention de proposer des ateliers l'année prochaine pour un public adulte, hein, par exemple, donner des clés de l'aide à la recherche dans les archives, travailler éventuellement sur le cadastre ou la généalogie. Ça fait partie des nouvelles propositions qu'on fera l'année prochaine, mais on aura l'occasion d'en reparler. Donc la salle de lecture, déjà premier étonnement, il y a beaucoup de livres dans cette salle de lecture parce qu'on a transféré une partie de notre bibliothèque. Donc les gens se disent alors archives ou bibliothèque? Alors en fait, pour travailler des sujets d'histoire, on a besoin d'ouvrages, hein, et donc on achète régulièrement des ouvrages pour ce qu'on appelle notre bibliothèque documentaire et qu'on a mis à disposition du public. On a aussi ce qu'on appelle une bibliothèque patrimoniale, c'est-à-dire des ouvrages anciens qui ont été achetés ou qui nous ont été donnés et qui donc ne sont pas des archives, hein. On reviendra sur la définition d'archives tout de suite après, mais qui constituent quand même un des petits problèmes de son. Pardon aux auditeurs, est-ce que c'est mieux? Oui, allez, on arrête de toucher, impeccable. Non, c'est bon. Oui, voilà, c'est un... Il y a un petit grésillement encore, mais bon, on s'entend quand même. Voilà, c'est la magie du direct.
Ça grésille, c'est l'hiver.
Voilà, c'est l'hiver. Voilà, alors du coup, je perds un peu le fil de mon propos. Oui, voilà, donc cette salle de lecture. Mais donc ça, en fait, c'est qu'une toute petite partie des espaces professionnels. Les lecteurs, quand ils viennent en salle de lecture, ils n'ont pas accès directement aux archives. C'est le principe même des archives, c'est pas comme une bibliothèque où vous allez vous servir vous-même. Il faut aller chercher la cote, hein, donc le numéro qui est en général un numéro alphanumérique qui permet de trouver le document que l'on souhaite. Ah, attention, ça grésille encore, le son va et vient, tout va bien, j'espère que pour les auditeurs ça va. Voilà, allez, impeccable. Voilà, alors du coup c'est pas évident de poursuivre le propos, je suis un petit peu perdue.
C'est la dernière de l'année.
C'est voilà, vrai. C'est la dernière de l'année, c'est le festival. Voilà,
champagne.
C'est tout ce qu'il ne faut pas faire dans une émission de radio. Allez, on va se reprendre. Donc, voilà. Alors après, qu'est-ce que c'est que les archives? Parce que les gens confondent un peu ce qu'on appelle documentation et archives. La documentation, c'est ce qu'on voit dans notre boîte aux lettres régulièrement, c'est les programmes culturels qu'on reçoit, c'est tout ce qui est souvent imprimé en grande série, le son repart. Ça, c'est une émission qui va rester dans les annales, voilà, c'est bon.
Un défaut d'archives dans les annales, oui.
Voilà. Dans les archives sonores de Fréquence Mistral. Voilà. Alors.
On va régler ce petit problème technique. On va m'écouter un morceau que vous avez mené.
Oui, voilà, on va essayer de résoudre ça. Alors, j'ai un peu en avance un morceau de Noël, de Stop the Cavalry, de Jonah Lewis.
Hey, Mr. Churchill comes over here to say we're doing splendidly. But it's very cold out here in the snow, marching to and from the enemy. Oh, I say it's tough, I have had enough, can you stop the cavalry? Say, oh yes, yet again, can you stop the cavalry? Mary Bradley waits at home in the nuclear fallout zone. Wish I could be dancing now in the arms of the girl I love. Wish I was at home. Bang, that's another bomb on another town while the Tsar and Jim have tea. If I get home, lift up, tell the tale, I'll run for all presidencies. If I get elected, I will stop the cavalry.
Voilà reparti, plus de problèmes techniques, on a trouvé le problème.
Le miracle pré-hivernal.
Voilà, exactement, et puis on est de bonne humeur après cette jolie chanson. Alors, on va essayer de repartir dans les archives. Voilà, j'étais en train d'expliquer la différence entre archives et documentation. Alors, dans des archives, il peut se trouver de la documentation, des documents imprimés, etc., mais qui vont contextualiser le document d'archives. Après, les archives, c'est vraiment alors, surtout que nous, en plus, aux archives départementales, notre cœur de métier, c'est vraiment de conserver ce qu'on appelle les archives publiques, c'est-à-dire toutes les archives produites ou reçues par une institution publique. Ça peut être un service de l'État, préfecture, etc. Ça peut être une collectivité comme une commune. Ça peut être aussi une association qui a une délégation de service public. Voilà. En théorie, on ne conserve que des archives publiques. Et dans une moindre mesure et de façon beaucoup plus optionnelle, on va conserver des archives dites privées, c'est-à-dire des archives qui émanent d'un particulier ou d'une association qui n'a pas de délégation de service public, et qu'on va décider de conserver ces archives, d'abord parce qu'on nous les propose, en premier lieu, parce qu'il n'y a pas d'obligation pour eux de les déposer aux archives départementales, et ensuite parce que ça peut avoir un intérêt pour l'histoire locale. Puisque, bien entendu, nous ne conservons que des archives, normalement, qui ne concernent que le département. Je le dis parce que des fois, il y a des gens qui viennent nous voir, alors surtout avec tout le monde a entendu parler de la grande collecte, hein, surtout là avec la fin du centenaire de la Grande Guerre. Donc cet appel que les archives de France ont fait dès 2013 pour que les gens amènent aux archives, soit pour donner, soit pour prêter, pour une numérisation et une valorisation ensuite dans des publications, par exemple, ce que nous avons fait, donc de nous apporter des archives relatives à la Grande Guerre, beaucoup de correspondances, des photographies, parfois des objets, et parfois donc des gens viennent encore hein, nous apporter des archives relatives à la Grande Guerre, correspondances, photos, mais de gens qui ne sont pas du département, ou c'est souvent ça en fait, hein, des gens qui ne sont pas du département, soit parce que voilà, par mariage ils ont récupéré la correspondance d'un arrière-grand-oncle mais qui n'est absolument pas du département. Donc nous on leur dit, c'est pas que c'est inintéressant, c'est juste que nous on peut pas se mettre à conserver absolument toute la correspondance de France et de Navarre, c'est le cas de le dire. Donc voilà, c'est le petit bémol. Le cadre géographique, est-ce que ça a un intérêt ? La grande collecte, on a reçu des choses très éparses, hein, j'allais dire. Des fois, c'était juste quelques cartes postales, quelques photos. Mais le thème, c'était la Grande Guerre. Donc, ce qui était intéressant, c'est d'avoir justement la multiplicité des provenances et de voir que, ben, en plus, il y a eu énormément de gens qui ont écrit, on en a parlé la dernière fois, à cette période, il y a eu une énorme production épistolaire. Donc, c'est ça qui est intéressant. Après, si quelqu'un demain vient me trouver aux archives départementales et m'amener, je dis n'importe quoi, hein, 10 lettres entre son grand-père et sa grand-mère dans les années 70, je dis n'importe quoi, je pense que je les refuserai. Voilà, parce que...
C'est hors contexte.
C'est hors contexte et c'est... Et puis surtout, pourquoi, je veux dire, enfin... Puis il faut bien comprendre que si on conserve, c'est parce qu'on se dit qu'il y a à un moment donné... Un chercheur, pas forcément un historien de l'université, mais simplement un chercheur va vouloir s'intéresser et utiliser ces documents-là pour rédiger un travail en histoire. Là, qui aura l'idée d'aller chercher une correspondance de 10 lettres, à moins que ce soit vraiment sur un thème ou le sujet, ou alors, évidemment... que les gens en question aient eu un rôle important. Oui, il faut toujours qu'il y ait quelque chose qui fasse que, oui, on retient ce critère-là pour dire, oui, ça, c'est intéressant à conserver. Je dirais même que les critères de sélection, on les a aussi sur les archives publiques, parce qu'évidemment, on ne conserve pas toutes les archives publiques. Et ça aussi, les gens sont très étonnés. En fait, on autorise la destruction de plusieurs kilomètres d'archives tous les ans.
Justement, la destruction, elle se passe comment ? Parce que c'est numérisé. Il faut passer un coup de dément dessus. Vous faites comment ?
Alors, attendez. Là, vous parlez de la destruction de ce qui est numérique ? Alors, en fait, pour l'instant, c'est une très bonne question. Parce que pour l'instant, la destruction de ce qui est numérique, c'est pas tout à fait organisé, j'allais dire. Parce que les archives numériques, pour l'instant, les gens, on n'a pas, on attrape, si vous voulez... C'est pas évident à comprendre. Je reviens aux archives publiques, hein, parce que là, j'ai fait un peu la distinction entre archives publiques et archives privées. Nous, on ne demande pas aux gens qui détiennent les archives privées de détruire leurs archives. Ça leur appartient, on n'a aucun regard là-dessus. Les archives publiques, en revanche, je vais prendre un exemple concret, parce que parler comme ça dans le vague, c'est pas forcément évident. Je prends les archives des communes, hein, qui sont des archives que nous sommes amenés à inspecter régulièrement, le directeur et moi. Il est bien évident qu'une commune ne peut pas garder absolument toutes les archives qu'elle produit, aussi bien la compta que les dossiers personnels, que ce qui concerne les routes, les permis de construire. Il y a des choses qu'elle est obligée de conserver, état civil, délibération, permis de construire, certains documents comptables. Mais alors parfois, on est obligé de conserver dans une certaine durée. C'est-à-dire, on conserve par exemple pendant 10 ans, et après, on a le droit de détruire. Là, vous parlez des archives numériques. Les archives numériques, pour l'instant, elles sont stockées sur des disques. Et on a, jusqu'à présent, par exemple pour les communes, on n'a pas eu de ce qu'on appelle de bordereau d'élimination, c'est-à-dire de demande d'élimination pour des archives numériques. En fait, on est actuellement beaucoup encore dans une société qui fonctionne avec le papier. On est en fait dans un état intermédiaire, où il y a à la fois le papier... et le numérique qui se juxtapose.
Oui, donc qui se juxtapose, c'était ma question. Il y a actuellement papier et numérisation.
Tout à fait.
Il y a deux choses distinctes.
Il y a trois choses. Il y a papier, numérisation et numérique. C'est trois choses différentes. La numérisation, c'est quand on numérise, quand on rend numérique un document papier. Et il y a aussi ce qu'on appelle ce qui est nativement numérique, c'est-à-dire ce qui ne passe pas par l'étape papier.
D'accord, oui, plus récent.
Bah, plus récent, mais qui aussi... qui sont aussi ce qu'on va appeler, qui sont déjà des archives en fait. Hein. Et donc à un moment donné, ces archives-là, ces documents-là, parce que archives, c'est quel que soit le support, les gens ont l'impression que les archives, c'est le papier, mais c'est quel que soit le support, ça peut être du sonore, ça peut être aussi des photographies, hein, on est bien d'accord, même si dans les archives publiques, il y a peu de photographies, mais c'est aussi des supports envisagés. Donc les archives numériques, pour l'instant, elles sont stockées. Mais un jour, oui, on aura sans doute des bordereaux d'élimination en nous disant, voilà, nous voulons détruire. Mais en réalité, il y a très, très peu de... Ça y est, à nouveau les problèmes techniques. Non, c'est bon. Il y a très peu d'organisations, de services publics qui fonctionnent intégralement au numérique. Il y en a très très peu. Il y a les impôts qui sont de plus en plus quasiment dématérialisés total, et la caisse d'allocation familiale qui, en fait, quand vous envoyez des papiers numériques, sont dans un protocole de numérisation très très précis. Voilà, mais tous les autres, en fait, pour l'instant, c'est le papier qui prime, hein, avec du volume énormément. Donc voilà, on est dans une phase intermédiaire. Il y a le cadastre aujourd'hui qui est intégralement numérique. Nous, on a reçu les premiers versements des services des impôts du cadastre en version numérique, intégralement numérique. Voilà, mais c'est les tout premiers, en fait. Donc, pour l'instant, on en est vraiment au papier. Et qu'est-ce qu'on a le droit de détruire ? Alors, parce qu'évidemment, il y a trois âges dans les archives. Il y a ce qu'on appelle les archives courantes, c'est les archives dont les administrations ont besoin au quotidien dans leur travail, les archives intermédiaires, les archives dont elles n'ont plus besoin dans le quotidien de leur travail, mais qu'elles ont besoin d'avoir pas très loin d'elles, à proximité dans un local, parce qu'il est possible que, d'un point de vue juridique, on leur demande d'avoir recours à ces documents-là. Le cas typique, c'est évidemment les marchés publics, hein, qu'il faut conserver au moins 10 ans, hein, pour la garantie décennale. Et à l'issue de ce qu'on appelle cette durée d'utilisation administrative, deux options. Soit on détruit, avec l'autorisation du directeur des archives départementales. Donc il faut dresser la liste de tout ce que vous voulez détruire. Et il faut pas justifier, mais c'est-à-dire on se base sur des textes, hein, qui disent oui, vous pouvez détruire ces documents-là au bout de tant d'années. Soit on trie, c'est-à-dire qu'on dit oui, on peut détruire, mais il y a quand même des choses qui seraient intéressantes de garder. Par exemple, toutes les années en 0 et en 5, hein, ce qu'on appelle un échantillonnage. C'est-à-dire que ça, c'est valable, c'est intéressant pour les très grosses masses de documents. On ne peut pas tout garder, mais on va garder des années, hein, des années de test, on va dire ça comme ça. Et de manière logique, hein, c'est-à-dire pas un coup une année comme ci, un coup une année comme ça. Donc en général, on choisit les années 0 et 5. Et puis la troisième option, qui est celle qui nous intéresse, la destruction aussi, puisque c'est nous qui donnons l'autorisation, mais c'est la conservation. C'est-à-dire que là, c'est des documents qu'il faut conserver ad vitam. Et donc là, les administrations les conservent en général d'abord chez elles et à un moment donné font ce qu'elles appellent un versement aux archives départementales. Donc quand les archives nous arrivent, elles sont ce qu'on appelle définitives. C'est-à-dire qu'une fois qu'elles sont dans notre dépôt d'archives, elles ne seront plus détruites. Sauf si la législation change et qu'on se rend compte que, je ne sais pas, au bout de 50 ans, que vraiment ces archives-là, on les a gardées parce qu'on s'est dit que ça serait peut-être intéressant, puis qu'on se rend compte que ça ne l'est pas. Et là, éventuellement, il y aura un plan national où on va dire, allez, on peut détruire ça.
Mais pour ce qui concerne tout ce que vous gardez, pour les conserver, il faut compresser, parce que bon, les photos, vous pouvez les compresser ou les garder en native. Le papier, c'est pas lourd, mais au fur et à mesure, ça prend beaucoup de place.
Qu'est-ce que vous appelez compresser, hein ?
C'est réduire la taille de la photo. Pour la photo, si vous...
Oui, mais là vous me parlez d'archives numériques, là, mais nous, on conserve du papier, essentiellement.
Voilà, et le papier, ça prend peu de place, mais au fur et à mesure, ça en prend.
On a 11 km d'archives, hein, c'est bien simple. Voilà, et notre bâtiment est au complet. Il y a un projet d'extension pour créer une coque supplémentaire de 10 km. Non, c'est pas en souterrain, parce que vu où on est, c'est pas trop possible. Mais c'est vraiment au pignon de l'actuel bâtiment. Il y a une réserve foncière, en fait, qui avait déjà été prévue dès le départ par l'architecte. Donc il va y avoir une coque de 10 km, qui pourra contenir 10 km d'archives, et il y aura 5 km qui vont être aménagés dans un premier temps, hein, pour répartir les coûts, parce que c'est quand même des coûts importants. Donc, on ne peut pas compresser le papier, hein. Compresser, on le détruit. Et quand c'est du numérique, compresser, on perd de la qualité. Donc on est c'est pour ça qu'il faut pas tout mettre. C'est vrai que c'est pas évident, hein. Il faut pas... En fait, votre question est intéressante parce qu'elle... Elle met le doigt sur ce que les gens pensent, nous disent, mais de toute façon, ils ont l'impression qu'on gère que du numérique, en fait, et que même les archives papier, on les numérise. Mais non, Vous imaginez, numériser 11 km d'archives, mais c'est absolument impossible. En fait, ce qui est actuellement en ligne chez nous, c'est des choix qu'on a dû faire.
Alors vous avez surtout un problème de conservation, alors si c'est du papier, parce que ça se détruit.
Ah ben là, nos magasins sont aux normes, c'est-à-dire qu'on a des, on surveille le degré d'humidité, on surveille évidemment la température, hein, il fait entre 16 et 20 degrés, j'allais dire, en permanence, en général 18, il y a une température, une humidité toujours constante, on surveille les parasites, voilà, c'est ce qu'on appelle, c'est l'équivalent d'une réserve de musée, hein, où les conditions de conservation sont évidemment optimum pour permettre la pérennité. Les boîtes, les archives sont nettoyées, elles sont conditionnées dans des papiers spécifiques, dans des cartons spécifiques qui sont à coût. Donc voilà, et c'est ça que font nos agents, hein, dans nos locaux. Quand on reçoit des archives, normalement elles sont triées et classées, en théorie. Elles sont parfois sales, parfois un peu désordonnées, donc il faut les retrier, il faut créer ce qu'on appelle des instruments de recherche, c'est-à-dire... Parce que c'est pas le tout d'avoir 20 cartons. Si vous savez pas ce qu'il y a dedans, si vous avez pas des numéros avec une petite, ce qu'on appelle une analyse pour savoir ce qu'il y a dedans, impossible de retrouver le document que vous cherchez. Donc voilà, faut imaginer que c'est ce travail-là que font les archivistes du département. Donc c'est quand même très long d'abord. On n'avance évidemment pas vite, surtout si les documents, enfin les archives qu'on nous verse ou qu'on nous dépose sont pas très bien conditionnés au départ et pas très bien nettoyés, pas très bien triés. Donc ça, c'est vraiment tout un travail à faire. Donc voilà, donc ça c'est intéressant ce que vous dites, parce que non, on numérise pas. Notre travail n'est pas de numériser. À un moment donné, on a microfilmé et puis on a numérisé pour des questions de conservation. C'est-à-dire que quand on s'est rendu compte que des documents papier étaient trop abîmés, ou des documents sur parchemin étaient trop abîmés, on s'est dit, ben, si les gens veulent pouvoir les consulter, ils vont s'abîmer encore plus. Donc autant les microfilmer, puis les numériser, pour pouvoir les donner en consultation, et éventuellement les mettre en ligne, quand c'est possible, d'un point de vue légal. Donc c'est ce qu'on a fait, par exemple, pour l'état civil. On a beaucoup de demandes, évidemment, de généalogistes pour l'état civil, donc on a mis en ligne... une partie de l'état civil, de ce qu'on a, quasiment jusqu'où on avait le droit de le mettre en ligne pour des questions de préservation de la vie privée. Mais il n'est pas dit qu'on va continuer à numériser et à mettre en ligne l'état civil, parce que c'est un travail absolument énorme et que, voilà, c'est plus notre priorité aujourd'hui de numériser l'état civil et de le mettre en ligne.
Donc pour les microfilms, c'est pas comme dans les films d'espionnage.
Non, alors les microfilms, ceci dit, c'est un très bon support de conservation. Ça paraît un peu désuet comme ça, mais en réalité, quand on a numérisé, quand on a voulu numériser, souvent on est parti, quand c'était le cas, on est parti des collections de microfilms, hein, parce que la qualité était bonne. Hein, voilà. Et que d'ailleurs, il y a un lieu de conservation en France, relative aux archives, hein, nationales, et on conserve les microfilms de tout ce qui a été microfilmé en France. Hein, voilà.
Alors pour aux archives départementales, vous êtes nombreux et nombreuses. Pour faire tout ce travail, il y a des personnes spécifiques qui sont dédiées.
Oui, on est 20, hein, 20 plus le directeur et moi. Donc le directeur et moi, nous sommes des agents de l'État. Nous sommes rétribués par le ministère de la Culture et de la Communication et donc mis à disposition du département. Alors pourquoi des agents d'État ? Parce que nous faisons ce qu'on appelle le contrôle scientifique et technique des archives. C'est-à-dire que nous sommes amenés à inspecter les producteurs d'archives publiques. Un établissement scolaire, une commune, une préfecture, un service de l'État, le département. Et que, évidemment, pour avoir ce pouvoir d'inspection, ça ne peut pas être un fonctionnaire territorial qui va inspecter un autre fonctionnaire territorial. Voilà, c'était ça l'idée. Donc l'idée, voilà, c'est un agent de l'État qui a ce pouvoir d'inspection. Et après, les 20 autres agents, en revanche, sont des fonctionnaires territoriaux, donc payés par le conseil départemental directement, qui sont soit de la filière administrative, soit de la filière culturelle. Et donc dans ces 20 agents, nous avons une catégorie A qui est justement en charge, notamment plus spécifiquement, des archives électroniques et de l'archivage électronique, parce que c'est un sujet complexe, nouveau, qui demande de travailler en interaction avec des informaticiens. Voilà, donc on avait besoin de quelqu'un qui prenne vraiment ce sujet à bras le corps, et elle le fait très bien. Donc elle travaille sur un projet de système d'archivage électronique, justement réfléchir au protocole de numérisation, parce qu'il y a des services aussi qui nous disent « Ah ben j'ai numérisé, donc on peut détruire le papier ». Ah ben non, ça marche pas comme ça, parce que la numérisation, il faut qu'elle soit techniquement complètement bordée. C'est-à-dire que votre document numérique, numérisé, on ne doit plus pouvoir le modifier, il doit être numérisé en couleur, il doit avoir un poids suffisant, il doit avoir une définition suffisante, parce que si le document est dégradé déjà dans sa version numérisée, ça n'est pas une archive. Et il faut toujours penser que si on conserve des archives, c'est pas juste pour le plaisir de conserver des archives, c'est outre l'intérêt historique pour la recherche ou pour le droit des administrés, c'est aussi pour des questions de justice, judiciaire. C'est-à-dire que un juge peut être amené à vous demander de produire un document d'archive. Et il faut que le document d'archive puisse être juridiquement recevable. Et une mauvaise numérisation n'est pas juridiquement recevable. Donc vous voyez, c'est compliqué. Donc, du coup, je me suis égarée. Je reviens aux différents métiers dans notre service. Donc, on a cet agent qui est vraiment qui fait du traitement d'archives et du soutien à l'archivage, notamment pour les sous-préfectures du département, mais qui est vraiment orienté sur l'archivage électronique et les archives numériques. Ensuite, nous avons des catégories B qui interviennent notamment dans ce qu'on appelle la présidence de salle, puisque si des auditeurs sont déjà venus dans notre salle de lecture, comme je vous l'ai dit, c'est pas du libre accès, hein, donc il faut demander la cote, et puis des fois les gens sont un peu perdus, comment chercher, comment s'orienter. Et donc il y a justement ce qu'on appelle un président de salle, un agent qui connaît bien les fonds et qui peut l'aider dans sa recherche selon les questions, à savoir où trouver déjà ne serait-ce que les cotes qui pourraient éventuellement apporter une réponse à leurs questions.
Et le bâtiment qui est à côté de la MDPH par rapport au bâtiment central, oui, fonctionnait comment? C'est par réseau, c'est pas...
Ah, pas du tout, non, non. Non, en fait, c'est un bâtiment dans lequel, à l'intérieur, on a un espace dans lequel on peut stocker une partie de nos archives, mais qui ne sont pas les archives définitives, en fait. Hein. Et de même qu'on a un autre local à Maligé, hein, de stockage. Mais non, on y va avec nos jambes et un petit chariot. Voilà. Non, mais ce n'est pas des archives définitives, ça, c'est vraiment des zones de tampons qui nous permettent de trier et de stocker en attendant de voir ce qu'on en fait. Donc c'est pas vraiment notre local, il est vraiment dans le bâtiment que tout le monde connaît, qui est très très monumental.
Et pour faire tout ce travail, il y a une formation spéciale?
Alors oui, bien sûr. Alors je vais juste terminer quand même sur l'équipe, mais effectivement, parce que je m'en étais arrêtée aux catégories B, présidence de salle, avec notamment, on a deux unités hein, dans notre service. On a une unité conservation, qui s'occupe de tout ce qui est nettoyage, conditionnement des archives, et une unité traitement, pour tout ce qui est tri, justement, et classement. Et ensuite, le reste des agents se répartit en des agents qu'on appelle, on a deux magasiniers. Le magasinier, c'est celui qui va dans les magasins d'archives pour justement aller chercher les boîtes et les donner aux lecteurs. Nous avons évidemment un agent d'accueil et de téléphone qui fait du courrier aussi, une comptable qui fait du secrétariat. Les autres agents, c'est ceux qui répondent aux recherches correspondance qu'on peut recevoir, qu'on a beaucoup. Hein, on est quand même beaucoup sollicités pour des questions qui font évidemment du traitement d'archives, soit archives communales, soit les archives du département, les archives des administrations. Voilà un peu comment ça fonctionne. Alors pour venir sur les formes, et puis on a aussi, j'allais oublier parce que ça c'est pas très connu aussi, on a notre propre restaurateur relieur. Hein, on a un atelier de reliure, ce qui nous permet de relier certains ouvrages, de reprendre la couverture de certains ouvrages et de faire des petites restaurations sur du papier déchiré. Il est aussi capable de refaire certains parchemins. Voilà, et on externalise certains gros travaux, mais on a la possibilité de travailler en interne sur ces questions-là. De même qu'on a un photographe qui permet de numériser certains documents et qui travaille avec nous, évidemment, sur tout le volet exposition, publication et montage d'expos. Voilà, alors les métiers, oui, alors le métier s'est extrêmement professionnalisé. Alors, de tout temps, depuis très longtemps, il y a la célèbre école des chartes, hein, qui est la grande école, hein, qui est l'équivalent de l'école normale supérieure, mais spécifiquement pour les archivistes, qui est une école très sélective, à laquelle on rentre sur concours. Et quand vous sortez de l'école des chartes, vous avez une thèse de l'école des chartes. Et autrefois, c'est les étudiants de l'école des chartes sortaient directement archivistes. Aujourd'hui, ils doivent repasser un concours, celui de l'École nationale du patrimoine, pour être soit conservateur, soit archive, mais aussi musée, etc. Tous ne choisissent pas forcément la voie des archives, soit bibliothécaire. Hein. Mais l'École des chartes est la voie royale pour se former au métier d'archiviste, pour apprendre la paléographie, pour avoir un très haut niveau en histoire, être capable de rédiger, connaître la diplomatie. Enfin, voilà, je veux dire, on est quand même... une école qui est une école prestigieuse. Hein. Voilà, ça c'est... Les gens qui sortent de cette école-là deviennent conservateurs la plupart, hein, conservateurs du patrimoine et souvent archivistes et sont ceux qu'on retrouve soit au service des archives de France, soit directeurs d'archives départementales. Ensuite, il y a une autre voie qui est celle de l'université, puisque c'est là où je disais le métier s'est professionnalisé, puisque maintenant il y a ce qu'on appelle des masters en archivistique. Certains sont d'ailleurs très réputés, notamment celui d'Angers, celui de Mulhouse, celui de Lyon aussi. Voilà, donc en général, ce sont des anciens élèves d'histoire. Ils ont fait une L3 en histoire et après, ils font un Master 1, puis un Master 2 en archivistique, où on leur apprend à créer des instruments de recherche, trier, classer, comment on fait. Là, on recrute début février un jeune qui vient de faire le Master 2 en archivistique à Angers et qui va intégrer notre équipe. Voilà, donc ça, de plus en plus, on a des vrais professionnels.
Il y a un âge limite, un âge légal pour postuler chez vous ?
Pas du tout, non. Avant, il y avait des limites d'âge pour les concours, mais je crois que quasiment elles ont été supprimées partout. Hein. Il y a peut-être encore quelques limites, mais ça s'est quand même beaucoup assoupli. Non, après, nous, on recrute des fonctionnaires territoriaux, hein, en premier lieu. Hein. Si on ne trouve pas de fonctionnaire territorial qui a le profil, éventuellement, on va ouvrir à un contractuel. Mais en premier lieu, il faut que les gens aient réussi, après, un concours d'attaché de conservation ou d'assistant de conservation, option archive, pour pouvoir ensuite postuler dans un service d'archives départemental en France. Hein.
Est-ce que la greffe prend toujours quand vous employez quelqu'un qui vient de l'extérieur, parce que vous êtes une équipe,
oui.
Quelqu'un qui vient d'une autre région ou d'une autre ville, quoi, peu importe, est-ce que ça marche toujours, parce que vous avez une certaine complicité entre vous quand même?
Oui. Bah écoutez, moi j'en suis un exemple, moi je ne suis pas de la région, je suis arrivée depuis 3 ans et j'ai pas eu l'impression d'être mal accueillie par l'équipe, donc au contraire, donc oui bien sûr, bon, c'est sûr, c'est notre équipe, c'est des gens qui sont là depuis assez longtemps, qui se connaissent bien, qui connaissent bien leur travail. Mais après, vous savez, si on recrute quelqu'un, c'est qu'on a un besoin, c'est que quelqu'un est parti en retraite ou qu'il y a un besoin spécifique. Donc, en général, les agents sont très contents de voir arriver quelqu'un parce qu'il n'y a rien de pire pour un service que de perdre du personnel. Or, la tendance quand même générale, dans la fonction publique en particulier, c'est de ne pas recruter à tour de bras quand même. Hein. C'est pas forcément de remplacer tous les départs en retraite et de peut-être de mieux cibler les recrutements et de réorganiser les services. Et les archives départementales n'échappent pas à cette tendance générale.
Hein. Et votre service s'appauvrit quelque part ?
On a perdu du personnel, oui, depuis ces dernières années. Voilà, c'est clair. C'est clair, on est passé de 23 à 20. À 22, à 20.
Ah ben, et, voilà. Et pour pallier le fait que ça ne soit pas reconduit, vous êtes obligé de retrouver les manches puisque vous êtes moins nombreux pour faire le même travail.
Y a des priorités différentes. Je parlais tout à l'heure de la numérisation. Là, très clairement, on numérise moins parce qu'on a les gens qui numérisaient jusqu'à présent sont partis. Voilà. Et après, si vous voulez, c'est comme pour tout. Hein. Il faut prendre aussi le bon côté des choses. Hein. Sinon, y a des choses qu'on peut faire à un moment donné parce qu'on a les moyens humains ou les moyens financiers. Les moyens humains ne sont plus là. C'est l'occasion aussi de repenser des choix. qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qui est prioritaire dans un service. Et ça, c'est tout l'art de la gestion d'une équipe, hein, et d'un projet de service. Et la numérisation, très clairement, hein, peut-être pour terminer là-dessus, mais c'est... À un moment donné, il y a eu une volonté qui a démarré dans les années je dirais 90, de dire voilà, il y a un public de généalogistes très important dans les salles de lecture. Ils ont une demande importante en matière d'état civil. Il y a un intérêt général et partagé pour la généalogie. Chacun un peu a envie de faire la généalogie de sa famille. Mettons à disposition, en version numérique, l'état civil. Ça a eu quand même un effet pervers, c'est que nos salles de lecture se sont vidées. Ben oui, si vous avez l'accès à l'information en ligne, plus obligé de venir en salle de lecture.
Enfin, il y en a qui aiment se déplacer quand même.
Non, mais nous, on maintient. Alors, on maintient pourquoi ? Parce que d'abord, on est un service agréable, déjà de manière physique, hein, c'est-à-dire le lieu est agréable, la salle de lecture est agréable, les lecteurs nous le disent. L'accueil que font les agents est très cordial et compétent, donc c'est la plus-value. C'est-à-dire, c'est un. Les gens ont peut-être trouvé ça un peu tiré par les cheveux, mais c'est un peu la différence entre le petit commerce où vous savez que vous allez être bien accueilli et on va vous donner, on va vous conseiller sur le produit, et puis l'hypermarché où vous êtes noyé dans la masse et tout seul. Donc voilà, c'est un peu ça. Internet, c'est un peu l'hypermarché, vous voyez, mais vous êtes tout seul. C'est-à-dire que si vous posez une question, il n'y a personne en face, il y a éventuellement le mail. Salle de lecture, il y a quelqu'un qui est physiquement en salle, vous pouvez aller le voir, lui dire voilà, moi j'arrive pas à lire ça, je ne comprends pas où trouver cette information, je suis bloqué dans ma recherche, j'arrive pas à retrouver mon arrière-arrière-grand-père, je n'arrive pas à trouver la parcelle qui m'intéresse sur ce plan cadastral, est-ce que vous pouvez m'aider ? Et oui, on est là pour ça. Donc vous voyez, c'est un peu la plus-value, elle se situe là en fait, hein, sur la pertinence de l'aide et des conseils qu'on peut apporter au lecteur. Hein. Voilà. Mais c'est clair que il ne faudrait pas qu'il y ait moins de lecteurs, parce que vous imaginez, enfin je veux dire, nous on est quand même ouvert du lundi au vendredi en continu, de 9h à 17h en continu. Ça veut dire qu'il faut mobiliser en permanence un magasinier, un président de salle et quelqu'un à l'accueil. D'accord ? Donc il faut qu'il y ait au moins. Donc il faut gérer ces emplois du temps là aussi, avec les congés, les absences, les départs. S'il n'y a plus personne qui vient. Ben, il se passe ce qui se passe dans certains services, hein, en France, on ferme la salle de lecture certains jours. Mais là, on met le doigt dans un engrenage qui est difficile. C'est-à-dire que là aussi, si on peut faire le parallèle avec le commerce, hein, s'il y a moins de jours de fermeture, s'il y a moins de jours d'ouverture, ben, les gens perdent un peu l'habitude d'y aller. Le train, c'est un peu pareil. Hein, si vous avez deux trains qui fonctionnent par jour... Ben, des fois, vous préférez prendre votre voiture parce que c'est compliqué. S'il faut attendre, partir dépotrominé et rentrer à pas d'heure, c'est pas forcément très pratique. Donc, nous, on a fait le choix de pour l'instant, hein, parce que c'est possible, d'ouvrir en continu. Mais c'est sûr que des fois, la salle de lecture, il y a deux personnes. Hein. Et puis, des fois, il y a 15 personnes. Bon, mais ça, j'allais dire, c'est la vie. C'est la vie.
Bien lourd. Ben, bientôt les fêtes.
Bientôt les fêtes, voilà. Alors, désolé pour ce petit chaos technique, mais bon, voilà, c'était la dernière de l'année. C'était le gag de l'année.
On essuie les plâtres après coup.
Voilà, exactement.
Prochain rendez-vous d'Histoire d'Archives, ça sera le jeudi 17 janvier.
Très bien.
Troisième jeudi du mois, 9h15. Vous serez là, Jean-Christophe Labadie sera peut-être là aussi.
Voilà, soit l'un
soit l'autre.
Pour
la première de l'année.
Oui.
À bientôt.
À bientôt, merci.